Bonjour, je suis Olivier Aymon. Nous avons, dans l'épisode précédent de Mars, la nouvelle Odyssée, raconté l'histoire de la conquête martienne jusqu'aujourd'hui. Beaucoup d'essais, pas mal d'échecs, mais toujours cette ambition de mieux connaître cette planète. Il est temps de grimper à bord des tout derniers engins envoyés scruter son atmosphère, son sol, ses entrailles, tout un monde de science, matiné d'un peu de politique. Ah oui, au fait, Mars pour vous.
Ah, Mars, c'est mon bureau depuis pas loin de 20 ans. En fait, Mars, c'est la Terre d'il y a 4 milliards d'années. C'est ça qui m'intéresse, comprendre finalement ce que je ne peux pas comprendre sur Terre, parce que la Terre a effacé son passé, hein, la Terre n'a pas de mémoire. Eh bien, aller le chercher sur Mars, je trouve ça fascinant. Et puis, je pense qu'il y a la vie ailleurs dans l'univers, mais je suis incapable de le prouver. Mais si je pouvais sur Mars le prouver, alors je dirais qu'elle est partout dans l'univers et je trouve que c'est pour ça que Mars me fascine, parce qu'on peut déverrouiller sur Mars une question absolument fondamentale, celle de la vie. Je suis Sylvestre Maury, je suis astrophysicien, spécialiste des planètes à l'IRAP, un laboratoire de Toulouse, du CNRS, de l'Université de Toulouse et du CNES. Mais avant tout, voyageur planétaire, j'ai pas mal bossé sur Saturne, sur la Lune, sur Mercure, en ce moment je suis bien posé sur Mars.
Mars, la nouvelle Odyssée, épisode 3, Curiosity attend son grand frère. Curiosity, c'est le rover qui est en ce moment sur Mars depuis 2012. Vous étiez déjà de la partie sur Curiosity.
Ah oui, déjà. Alors, il fonctionne depuis 8 ans et demi à la surface de Mars. Alors, il s'est posé en 2012, on l'avait lancé en 2011. On avait commencé le programme en 2005 et puis les premières études en 2001. Ouais, ça fait 20 ans.
Vous avez un instrument à bord auquel vous avez participé, que vous utilisez depuis tant d'années. C'est, on va dire, l'œil ou la tête du rover, une caméra laser.
Oui, alors on l'avait imaginé au début des années 2000 avec un collègue, Roger Wins, Los Alamos. Et on s'était dit que ça serait bien un jour de mesurer la composition des roches. Mais des sols. C'est-à-dire que je prends un caillou et je dis, tiens, il y a tant de fer, il y a tant de barium, de strontium, puis après on fera l'histoire, ce que ça veut dire. Et c'est l'instrument qu'on a pu concevoir, il s'appelle ChemCam, il est sur Curiosity. C'est un instrument franco-américain d'une dizaine de kilos qui, avec un laser de puissance, vaporise la matière et en regardant ce qu'on appelle le plasma, la lumière produite, on a la chimie. Donc ça fonctionne. Et on l'a refait sur Perseverance, donc nouvelle génération. On l'a appelé Super ChemCam et ça a fini en Super Cam. C'est quand même plus simple. On a refait de la chimie, puis on a mis d'autres lasers, d'autres technologies pour faire vibrer les molécules. On s'est un peu aidé du soleil qui lui-même éclaire les roches pour non seulement pas dire simplement la chimie, mais comment étaient liées entre elles ces molécules ou bien même les atomes entre eux. Ça s'appelle la minéralogie. C'est plus proche de la science qu'on veut faire avec persévérance, c'est-à-dire une science de traces de vie, alors que la première, c'était plutôt l'habitabilité.
Qu'est-ce qu'on cherche exactement ?
Alors, là, on va chercher sur Mars avec persévérance si dans le passé, il y a eu des traces de la vie. Pourquoi ? Parce que Curiosity a fait un énorme pas en avant. Il a montré que c'était habitable. Il a montré qu'il y avait toutes les conditions physico-chimiques de l'habitabilité. Et donc là, on s'est dit, c'est habitable, il y avait de l'eau, elle était pas trop acide, pas trop basique non plus, elle était à peu près pH neutre, c'était de l'eau douce, elle était pas trop salée même. Il y avait un peu de chimie organique, donc il y avait tout ce qu'il faut pour que la vie se développe. Et ça, c'est la fin du film Curiosity, alors qu'il continue. Hein. Maintenant, on se dit, si tout ça s'est produit, est-ce que ça a produit la vie ? Et donc c'est ça, persévérance et la recherche de traces de vie.
Donc vous avez de la chance parce que vous êtes sur les deux missions. À quel moment est-ce qu'on décide, quand je dis on, c'est les Américains, décident d'y retourner avec vous ? C'est-à-dire, quand ils voient que ça marche avec Curiosity, ils vous rappellent, ils disent « Sylvestre, oui. Merci, il faut reconstruire une caméra pour le prochain ?»
Pas si simple, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Mais les Américains sont très sensibles à la science en émission scientifique et donc ils font des appels d'offres. Dans le cas de Curiosity comme Perseverance, on appels d'offres internationaux où les Américains, la NASA, dit on choisit pas forcément les meilleurs. Il faut être humble. Un jour, ils disent, tiens, les petits Français, ça a l'air intéressant ce qu'ils proposent. Simplement, on ne va pas les payer quand même. Et donc, on appelle le CNES, l'agence spatiale française, en disant, ils sont sérieux, vos gars, là-bas ? Parce que si on les sélectionne, vous devrez payer. Donc, il y a un peu de politique.
C'est-à-dire on paye pour être à bord.
Non, on ne paye pas pour être à bord. C'est-à-dire que la France va payer sa contribution. Donc, la France paie le développement de ChemCam, le développement de SuperCam. Et donc, c'est un deal qui est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que finalement, on paie notre instrument sur un véhicule qu'on ne pourrait pas se payer. Alors ça ne marche que si, de temps en temps, on rend l'appareil aux Américains. Et si vous avez pour souvenir, par exemple, Rosetta, c'est une très belle mission européenne, un peu du même genre, flagship.
Une comète.
Voilà, une comète, Chury.
Un petit atterrisseur qui doit se poser dessus.
Exactement, Philae. Eh bien, il y avait des instruments américains. On avait sélectionné des instruments américains sur des appels d'offres. Et donc, c'est cette façon dont la science s'organise, où il y en a toujours un qui est chef du véhicule, et puis les instruments, ben, on peut potentiellement aller les chercher ailleurs.
Donc on voit bien qu'il y a des enjeux scientifiques, il y a des enjeux commerciaux et des enjeux politiques aussi.
Alors, politique, très certainement. Hein. On est en dehors de l'orbite terrestre. 96% des vols de fusées, vous savez qu'en ce moment on tire à peu près 2 fusées par semaine, toutes ces fusées, c'est avant tout des satellites de communication, d'observation de la Terre. On est sur la Terre. Et puis dans 4% d'entre eux, un peu moins de 4% d'entre eux, c'est vraiment de la science extraterrestre. Cette science extraterrestre n'a pas d'objectifs commerciaux. On n'a rien à proposer, c'est de la recherche fondamentale que ne se paient que quelques pays super riches. Les États-Unis, l'Europe dans son ensemble, les Russes, et puis on a 3 Asiatiques hein, qui sont un peu nouveaux, les Japonais, les Indiens et les Chinois. C'est tout, personne d'autre. Et là, vous sortez de l'orbite de la Terre, et puis là, vous allez soit vers la Lune, soit vers Jupiter, soit vers Saturne, Uranus, si vous voulez, ou bien Mars et Vénus. Et donc, c'est très peu de sondes. Pour les construire, il faut bien trouver un maître d'œuvre qui peut s'appeler Lockheed, Boeing. La NASA construit elle-même ses rovers en particulier. En Europe, ça pourrait être Airbus DS, ça pourrait être Thales, par exemple. Mais cette relation commerciale, simplement, l'agence qui dit « construisez-moi un véhicule ». Et pour ça, c'est important de le dire, c'est parce qu'on va évoluer dans un monde de science. La politique vient après. Pourquoi ? Parce que, finalement, qu'est-ce qui motive un pays à faire plaisir à quelques-uns de ses scientifiques pour aller explorer ? Ben, c'est aussi de montrer aux voisins qu'ils sont bons. Et donc, la partie politique stratégique est importante. C'est très clair. Voilà, c'est un peu ça les deux ressorts, science et stratégie politique.
Les Chinois, ils arrivent aussi sur Mars. Eux aussi, ils vont poser un rover. Enfin, ils vont tenter, comme les Américains. Ça va être à peine plus tard. On sera au printemps de cette année. La mission, elle est équivalente.
La mission Tianwen.
Tianwen.
Alors, les Chinois, pendant, on les a pas vus jusqu'au début des années 2000. On voyait pas les Chinois. Alors, aujourd'hui, la Chine est une grande puissance spatiale. C'est la première puissance. Prenons l'année 2019. 2019, c'est facile. J'aime bien cette année parce qu'il y a eu 100 tirs de fusée. Qui en a tiré le plus?
Les Chinois,
ils en ont tiré 36, les Américains ont dû en tirer une vingtaine. Et en même temps qu'ils dominent un espace, je dirais, commercial, observation de la Terre, militaire, ils font de la science. Alors, ils ne sont pas comme nous, ils sont plus carrés, ils disent, allez, vous mettez en ligne, je veux une ligne pour la Lune. Et ils font Chang'e 1, Chang'e 2, Chang'e 3, Chang'e 4, Chang'e 5 qui vient d'arriver avec le retour d'échantillons. Ils sont en train de faire Chang'e 6.
Sur lequel vous travaillez?
On travaille aussi sur Chang'e 6. On n'a jamais fait d'instrument sur la Lune et on est en train de construire. Et puis, ils ont ouvert une deuxième petite voie en disant « Allez, Mars, il ne faut pas rater Mars ». Et c'est assez intéressant. Donc, c'est Tianwen-1. Donc, c'est leur voie Mars. C'est un grand défi pour eux. Ils ne sont jamais allés sur Mars. Ils vont avoir un orbiteur. Donc, ils se mettent en orbite. Ils vont avoir un lander qui descend. Et puis, une fois qu'ils sont posés, il y a un rover qui part.
Donc ils font eux une fois ils voilà. font ce que nous on va dire l'Europe et les Américains
non,
et
les l'Europe
Russes.
Non et mais les Européens les Américains
oh, ben,
oui.
les Européens on a réussi à y aller on n'a pas tout à fait réussi
on n'a pas réussi donc ils ont
mais
poussé,
ce qu'on a mis 50
ouais,
ans à faire
ouais ils ont poussé le truc très loin mais ils sont tellement bons sur la Lune que nous on les regarde en disant bah oui ça va marcher. Alors sur le véhicule qui va rouler donc leur petit robot eh bien il y a quelques instruments. Et un jour, ils nous ont appelé en disant « Écoutez, il y a un instrument, ça peut vous intéresser. » On est allé les voir, on a discuté. C'est quand même, il ressemble un peu à celui qu'on a mis sur Curiosity, qui est ChemCam. Chez eux, il s'appelle Mars Cody. Ils l'ont refait à leur façon, avec leur vision. Et puis, on leur a même donné une cible de calibration, une petite cible de référence. Vous savez, sur nos véhicules, on emporte toujours des cailloux à nous. Pourquoi ? Parce qu'avec mes lasers, si j'ai un laser, je tire sur un caillou, je connais la réponse. Sur Terre, je vais regarder quelle est la réponse sur Mars. Je verrai si l'instrument marche bien, etc. Et donc, des cibles de calibration, on en a sur Curiosity. Il nous en restait une qu'on avait fait en double. Et donc, on l'a mis chez les Chinois. Comme ça, on a quasiment le même instrument qui regardera les mêmes cibles. 2 véhicules différents, 2 endroits différents. Donc, les Chinois, ils se mettent en orbite un petit peu plus tôt Donc ils vont arriver un petit peu plus tôt. Après, ils vont se mettre à tourner autour de Mars et puis au printemps, décider de descendre à la surface.
Ils prennent un peu plus de temps pour descendre.
Alors, parce qu'ils ont besoin d'un orbiteur, alors que Persévérance est en trajectoire directe.
Et alors, il y a un troisième pays qui s'invite, les Émirats arabes.
Alors, on le savait, parce qu'on savait qu'ils préparaient ça. C'est étonnant,
alors
les Émirats.
Ce n'est pas pour se poser. Hein.
Non, là, c'est un orbiteur. Donc, ça veut dire que si tout va bien, on aura deux orbiteurs en plus et deux rovers en plus, quatre véhicules. Hein. C'est quand même... Ça va sentir la surpopulation. On a déjà 8 en ce moment qui fonctionnent.
C'est le périph' à 18h.
Ouais, voilà, on a déjà 6 orbiteurs et un lander, un rover. Donc, on va passer de 8 à 12. On verra bien. On vous dira tout ça dans quelques mois. Alors, les Émirats, la mission Hope, le moteur, ce n'est pas complètement de la science. Il y a de la science, mais ils veulent prouver qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs, je leur ai posé la question. Une fois, ils m'ont dit « Non, mais nous, on veut célébrer les 50 ans de la naissance de notre pays sur Mars. » Pourquoi pas ? C'est l'argument, il vaut. Les Chinois, une fois, je dis « Mais vous êtes sûr là ? Vous êtes prêts ?» Ils me disent « Oui, on n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive en 21. » C'est les 100 ans du Parti communiste, donc vous n'avez pas photo. Il faut qu'on y soit. Les Émirats, ils ont une culture spatiale neuve. Ils sont extraordinairement bien formés, un peu comme les Chinois. C'est-à-dire qu'on les reçoit dans nos universités. Les universités beaucoup américaines, ils ont une culture très anglo-saxonne. Et donc, ils maîtrisent pas mal de technologies. Là, ils ont commandé leurs véhicules aux Américains. Ils ont participé eux-mêmes, hein, ils ont spécifié, etc. Mais ils ont demandé aux Japonais de le lancer. Parce que, alors, pour le coup, là, ils n'ont pas de fusée qui permettrait de faire ça. Donc, il y a un petit côté... vraiment une puissance économique et qu'on connaît bien. Ils ont acheté leur truc, mais ils ont fait des choses eux-mêmes. Hein. Et puis, ils se sont dit, on va faire un orbiteur. Donc, il y a un petit pitch un peu original. Donc, on se retrouve avec Hope, avec Tianwen, avec Persévérance. Et Tianwen est double. Tout le monde a été lancé au même moment. Alors ça, ce n'est pas un secret, tout simplement, parce que si on veut lancer dans une fenêtre d'énergie moindre, il n'y avait qu'une fenêtre de tir.
Quand la route est la plus courte.
On pourrait être plus près. Oui. Persévérance fait 470 millions de kilomètres. Je le sais parce que ce matin, j'ai fait le point, ils venaient de passer les 400 millions. Mais 470 millions pour deux planètes qui, au plus près, sont à 58 millions de kilomètres. Donc, on n'y va pas non plus en ligne droite. Hein. C'est quand même une sorte d'ellipse. Mais on y va tous ensemble. La fenêtre de tir, elle fait quelques semaines. Et d'ailleurs, il y en a un qui n'est pas là.
Eh oui.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on avait la chance d'être dans notre labo, d'être sur Persévérance, d'être sur Tianwen. On était aussi sur, on est responsable, co-responsable d'un instrument sur ExoMars. Les Européens devaient tirer.
ExoMars, les Européens.
Voilà. On devait tirer au mois de juillet.
Et on s'est pas réveillé.
Ouais. C'est un peu une façon de voir. Le programme ExoMars, c'est un programme européen de longue date, qui est un peu compliqué, qui paraissait simple, puis on a force de le faire compliqué. On a un véhicule de descente qui est russe. Le rover, qui est très très beau, il est superbe. Il est européen. Il y a des contributions américaines, évidemment. On leur rend l'appareil. Nous, on construit des lasers à l'intérieur avec des Espagnols. Donc, simplement, l'interface entre les Russes et les Européens est compliquée. Le modèle qu'on a choisi pour développer le véhicule est compliqué, ce qui fait qu'on n'est pas prêt. Voilà. À l'hiver 2020, on fait le point, on dit bon, est-ce qu'on peut tirer ? On peut tirer. Non, on n'y croit pas. On va reporter 2 ans, c'est plus sain, on ne prend pas de risque. Bon, le Covid est passé un mois après. De toute façon, avec le Covid, on n'aurait pas réussi à tirer. Et quand sur Mars, on prend du retard, c'est discret. C'est-à-dire, ce n'est pas continu, je prends, et 2 ans de retard. Et donc, on tirera en septembre 2022. Donc, voilà, on sait déjà. Mais ça montre que, c'est pas facile ce qu'on fait. On est à la pointe. On n'est pas des industriels, on est des artisans. Par contre, les Américains qui ont une plus grosse maturité, quand ils commencent le programme, ils nous sur l'appel d'offres, ils disent « On tirera le 17 juillet 2020. » On a tiré le 30, parce qu'il y avait un truc sur la fusée, un truc qui n'allait pas bien. Ça fait quoi 17 jours de retard en 6 ans. C'est pas mal quand même. Là ils sont forts. Les Européens, on a plus de mal. Alors, on espère beaucoup dans cet ExoMars. Il y avait ExoMars, c'est une mission double. Hein. Il y a la mission à la surface. Il y avait un TGO qui était l'orbiteur. Lui, il est à pause depuis 2016. On l'a lancé en 2016. Lui, tout va bien. Donc, on a déjà fait la première partie.
Voilà.
Non, mais on est là. Alors, en ce moment, autour de Mars, on a 6 véhicules, 2 Européens, Mars Express TGO. On a 3 Américains, Odyssey, MRO et Maven, et un Indien, MOM. Mangalayan, on l'appelle aussi. Donc on a nos 6 qui sont là. Il y en a qui sont vieux, qui tombent en panne de temps en temps, puis qui partent. Et puis à la surface, on a nos 1 rover, donc c'est Curiosity qui fonctionne bien, et puis InSight, le lander fixe. L'étape d'après, c'est l'étape humaine. Pourquoi ? On a plein de raisons. et aucune à la fois. C'est-à-dire qu'on en a plein, je vais vous dire, la science, la technologie, l'inspiration. Par contre, ce que je sais que ce n'est pas, c'est que ce n'est pas l'avenir de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas la Terre 2.0, l'humanité post-idiotie climatique, ce n'est pas Mars. C'est-à-dire que je ne vais pas sur Mars pour me sauver de la Terre. Ça, c'est clair. On a fait passer le message en disant « Mars, il fait froid, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau liquide ». Donc, ce n'est pas de la vie, c'est de la survie. Donc, ce n'est pas l'avenir de l'homme. Ça, c'est le premier message important. N'empêche qu'il faut explorer Mars, parce que Mars est là. C'est une sorte de destinée. Et en faisant ça, on va inspirer des vocations, on va développer des nouvelles technologies, on va peut-être rassembler les pays dans un but commun. Donc, et puis, on fera de la science, on en est très content. Alors, notre ami Thomas Pesquet, quand on le voit, il dit « Tu vas aller sur Mars ?» Il dit « Ah ouais, moi j'y vais. » Il a envie d'y aller. Mais le problème, c'est une fois qu'il y va, il n'y va pas seul. Il y va avec les milliards de bactéries qu'il a sur place et on ne va pas le stériliser, notre Thomas. Et donc, la science recherche de vie, elle est morte. Hein. Le jour où il se pose, il a un peu contaminé la scène de crime. Ça montre
une sacrée question.
Ça montre qu'il y a un temps pour les robots, un temps pour les humains, qu'il n'y a pas d'opposition. Il se trouve que là, les robots sont devant. Et puis, le jour où la première mission, qui sera plutôt une mission orbitale, hein, c'est pas forcément une mission de surface, elle aura des robots à la surface, puis elle les pilotera quasi au joystick. Parce que nous, on pilote, mais on pilote à loin, et c'est difficile. Et là, ils piloteront carrément au joystick. C'est-à-dire qu'on pourra faire des choses de traces de vie, mais ça va être compliqué, parce qu'il va y avoir un peu de vivant à côté. Donc ça, c'est plein de bonnes questions sur l'homme, avec un grand H, sur Mars. Et d'ailleurs, quand on parle au public, c'est assez étonnant, parce que notre exploration martienne coûte cher. On pourrait nourrir des personnes avec cet argent. Alors, c'est pas monstrueux, Curiosity et Perseverance ensemble, ça fait peut-être un porte-avions en prix. Ça fait 2 tickets de cinéma par américain aussi, quelque chose comme ça. C'est pas non plus monstrueux.
C'est étalé sur quelques années.
Enfin, voilà. En plus, c'est étalé, donc c'est pas monstrueux. Mais c'est de l'argent. On pourrait se dire pourquoi on le fait. Eh bien, moi, je suis fier d'être dans un pays qui peut le faire, qui a choisi cette voie assez désintéressée, qui dit ben non, je suis scientifique. Et quand on parle au public, il est plutôt d'accord. On a une adhésion sur nos recherches fondamentales martiennes. Sur quand il faudra choisir d'envoyer des humains, l'adhésion devrait être encore plus grande parce que là, on va avoir des budgets qui sont colossaux. Et donc, ça ne se fera qu'avec le public. Pour l'instant, on est encore dans un monde où le politique décide. Alors, en France, on a la chance parce qu'on est d'être la deuxième communauté mondiale sur ces affaires de planéto. Donc, nos politiques disent « Ah ouais, ça marche bien, on va entretenir ce qui marche ». Le public râle pas trop, il est content, il a des très très belles images et voilà. Et donc, cette nouvelle étape devra avoir un supplément d'adhésion du public parce que là, on va passer dans... On pourra plus prendre en cachette la décision. Il faut à nous-mêmes de convaincre de cette partie. Et ceux qui m'écoutent disent « Bon, il est un peu passionné, mais il est un peu rêveur ». Mais oui, mais c'est du rêve. Souvent, on nous dit « C'est cool, vous nous faites rêver ». Donc, et ces photos, moi, elles me font rêver. Alors, elles sont un peu... Mars reste une planète très minérale. C'est rouge, hein. On le voit bien la nuit. L'été dernier, on le voyait très bien. C'est pas la planète la plus sexy, hein. On pourrait en trouver d'autres, il y a des choses à voir. Mais c'est la première étape, ou bien la deuxième. La Lune reste la première étape.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
La passion de Sylvestre Maurice, voyageur planétaire comme il se définit, ça vaut la peine de prolonger la discussion avec lui. Et ce sera fait dès le prochain épisode de Mars, la nouvelle Odyssée. Nous partirons ensemble à la recherche de la vie, d'une certaine forme de vie.